Sixième demeure. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons enfin au sixième demeure. C'est là qu'habite l'âme blessée par l'amour de l'époux. Elle recherche la solitude et évite tout ce qui peut l'en détourner. Cette vision de l'époux dont elle a joui une fois est tellement gravée en elle que son seul désir est de jouir encore de sa présence. Elle ne trouve rien dans l'horizon d'union qu'on puisse appeler vision, même pour l'imagination. Désormais, l'âme est résolue à ne pas prendre d'autres époux. Cependant, les désirs brûlants qu'elle éprouve de célébrer ses fiançailles ne sont pas exaucés par l'époux. Elle doit payer de quelques sacrifices cette grâce qui est le plus précieux des trésors. Tout ce qu'elle peut souffrir, elle peut, en comparaison des avantages qui lui sont réservés. Croyez, mes filles, que l'âme a besoin de la vision dont elle a joui et du gage qu'elle en a reçu pour supporter de telles peines. Mon Dieu, par quelles épreuves intérieures et extérieures doit-elle passer avant d'entrer dans les septièmes demeures? Parfois, j'y pense, et je me dis que malgré les trésors promis, il nous serait très difficile de les supporter si on les prévoyait, vu notre faiblesse. Je ne parle pas de l'âme arrivée à la septième demeure, car une fois là, elle ne redoute plus rien. L'âme accepte de grand cœur de tout souffrir pour l'amour de Dieu, étant donné qu'elle est presque tout le temps en union très intime avec la majesté divine. De là vient sa force. Je crois qu'il serait bon que je cite quelques-unes de ces épreuves. Toutes les âmes ne sont pas conduites par le même chemin, mais les peines d'ici-bas visitent d'une façon ou d'une autre les âmes qui profitent des consolations célestes. Mon but n'est pas d'en parler, mais j'ai cru que quelques âmes, pensant que tout est perdu pour elles, aimeraient savoir quelles sont les souffrances de celles que Dieu élève à toute telle grâce. Je leur raconterai dans l'ordre où elles se présenteront à ma mémoire et non dans celui où elles se sont produisir. Voici une personne, critiquée par celle avec qui elle est en rapport, et même par d'autres, avec qui elle n'en a pas et qui ne devrait pas s'occuper d'elle. On dit qu'elle fait la sainte, qu'elle se livre à des exagérations pour mystifier le monde et montrer l'imperfection des autres. Il est à noter que cette personne ne fait rien d'extraordinaire, sauf de remplir de son mieux les devoirs de son état. Ce qu'elle croyait ses amis lui porte les plus rudes coups de dents. Elle ressent une grande peine. On lui dit qu'elle est égarée dans une profonde illusion, que ce qu'elle éprouve vient du démon, qu'elle est comme telle, qu'est elle qui se sent perdue, qu'elle est dangereuse pour la vertu, qu'elle trompe ses confesseurs. On va jusqu'à avertir ces derniers et leur rappeler que d'autres se sont perdus dans cette voie. On se sert contre elle de toutes sortes de railleries et de propos blessants. Je connais une personne qui eut très peur de ne plus trouver de confesseur. Le pire, c'est que cette épreuve dure toute la vie. Vous me ferez observer que d'autres disent du bien de cette personne. Qu'ils sont rares, mes filles, ceux qui y ajoutent foi à côté de ceux qui l'accusent. De plus, elle trouve davantage de ses louanges que de mauvais propos. Cette femme voit bien qu'elle tient des dieux et non d'elle-même les quelques biens qu'elle possède sur terre, car peu avant, elle était pauvre et pécheresse. C'est pourquoi elle est si tourmentée par ses louanges, surtout au début. Ce tourment diminue plus tard, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que les hommes disent aussi facilement du bien que du mal, alors elle ne fait plus attention à ceux qui parlent, pour ou contre elle. Deuxièmement, elle comprend que tout ce qu'il y a de bien en elle vient de Dieu. C'est à lui qu'elle en attribue la gloire. Troisièmement, elle voit que les grâces qu'elle reçoit profitent à des âmes. Elle pense que le Seigneur veut qu'on la croie bonne, quoiqu'elle ne le soit pas, pour faire du bien. Quatrièmement, elle tient plus à la gloire de Dieu qu'à sa propre réputation. Aussi, elle ne craint plus, comme au début, que les louanges soient pour elle. Elle ne se préoccupe guère de la perte de son honneur si cela contribue à la gloire de Dieu. Après, ce qui lui arrivera à elle-même lui importe peu. Ces raisons et d'autres affaiblissent le tourment causé par les louanges. Pourtant, elle le ressent toujours un peu, sauf si elle n'y fait plus attention. Quand elle se savait en proie à l'estime publique, son chagrin était incomparablement plus violent que lorsqu'elle était l'objet de la critique. Quand elle devient insensible aux louanges, elle l'est encore plus à la critique. Bien au contraire, elle en est réjouie, C'est pour elle une très suave harmonie. Au lieu de se laisser abattre, l'âme en tire une force nouvelle. Elle sait par expérience quel bien elle y trouve. Il lui semble que le Seigneur se sert de ses persécuteurs pour son plus grand bien. Elle conçoit pour eux une affection pleine de tendresse. Ils lui paraissent être davantage ses amis que ceux qui la louent, parce qu'ils lui font gagner des mérites. Le Seigneur a coutume d'envoyer de très graves maladies. C'est une épreuve très rude, surtout quand les souffrances sont aiguës. Elles paraissent être les plus atroces qu'on puisse subir sur la terre. Je parle des douleurs physiques, quand elles sont très violentes. L'âme oppressée ne sait que devenir. Elle préférerait n'importe quel martyr qui finit promptement à de telles souffrances. Toutefois, ces souffrances n'ont pas longtemps cette intensité car Dieu ne nous donne pas des douleurs qui excèdent nos forces. Avant tout, il nous accorde la patience. Je connais une personne qui peut assurer en toute sincérité que depuis 40 ans, elle n'a pas passé un seul jour sans souffrir et sans endurer quelques peines. Sans doute, elle n'avait pas été fidèle au service de Dieu. C'est pourquoi, en comparaison de l'enfer qu'elle avait mérité, ses souffrances lui semblaient peu de choses. Que vous dirais-je maintenant des peines endurées par l'âme en cet état? Si je pouvais vous les montrer, les précédentes vous paraîtraient légères. Mais on ne peut pas en donner une idée exacte. Commençons par le tourment de cette âme qui trouve un confesseur prudent, mais peu expérimenté, qui n'est assuré de rien. Il a peur de tout, il doute de tout parce qu'il voit des choses extraordinaires, principalement s'il trouve quelque imperfection dans l'âme, objet de telles faveurs. Il estime qu'elle devrait être un ange, ce qui est impossible tant qu'elle est unie au corps. Comme il attribue cet état au démon ou à la mélancolie, il condamne tout. Rien d'étonnant. Ce mal qui cause tant d'illusions dans le monde, et le démon cause tant de préjudices que les confesseurs ont parfaitement raison de se méfier et d'y regarder de très près. La pauvre âme, en proie aux mêmes terreurs, s'adresse au confesseur comme à son juge. S'il la condamne, elle tombera dans de tels tourments que seul celui qui les aura éprouvés pourra en comprendre la profondeur. Voici une autre grande épreuve que ces âmes endurent, surtout si leur vie n'a pas été parfaite. Elles se figurent que pour les punir de leurs péchés, Dieu permette qu'elles soient dans l'illusion. Sans doute, lorsque Dieu leur accorde ses grâces, elles sont fortifiées contre toute crainte et ne peuvent penser qu'un esprit autre que Dieu puisse les guider. Cette faveur passant vite, elles se souviennent de leurs péchés. Elles découvrent en elles de nouvelles fautes et sont replongées dans le même tourment. Si leur confesseur les rassure, ce tourment passe, mais revient. Si leur confesseur contribue à augmenter leur angoisse, elles deviennent presque intolérables, surtout s'il vient ajouter à cela une certaine sécheresse intérieure où elles ont l'impression de n'avoir jamais pensé à Dieu, qu'elles ne pourront se souvenir de lui, ou lorsque l'on parle du Seigneur, elles ne comprennent pas plus ce qu'on dit de lui que s'il s'agissait d'une personne dont on n'a pas parlé de lui depuis longtemps. Ceci n'est rien à côté de ce qu'elles souffrent quand elles croient qu'elles ne savent pas se faire connaître, qu'elles trompent le confesseur. Elles ont beau constater qu'elles lui déclarent le moindre mouvement de leur intérieur, cela ne sert à rien. Leur entendement obscurci ne peut plus discerner la vérité. Elles croient tout ce que leur présente leur imagination, qui les domine, et toutes les folies suggérées par le démon. Le Seigneur permet sans doute à ce dernier de les tenter et même de leur faire croire que Dieu les repousse. Ce tourment est si intolérable qu'il n'est comparable qu'à l'enfer. Dans cette tempête, elles n'ont aucune consolation. Si elles vont en chercher auprès de leur confesseur, elles croient que tous les démons sont d'accord avec lui pour les tourmenter davantage. J'ai connu un confesseur qui dit à une personne que cet état lui paraissait dangereux. Il lui ordonnait de l'avertir dès qu'elle serait de nouveau assiégée. Comme l'état de cette personne empirait, il comprit qu'il n'y pouvait rien. L'entendement de cette personne était si obscurci que, prenant un livre en langue vulgaire, elle ne pouvait le comprendre et pourtant, elle savait très bien lire. Dans cette tempête, il n'y a rien d'autre à attendre que la miséricorde de Dieu. Au moment où on s'y attend le moins, il dit une parole, ou fait surgir une circonstance imprévue qui dissipe cette tempête en un clin d'œil. L'âme est tellement inondée de lumière et de consolation, surpassant toutes celles auxquelles elle a goûté jusqu'alors, qu'on dirait qu'il n'y a jamais eu de nuages. Elle ressemble au vainqueur d'un combat dangereux et rend grâce avec plaisir au Seigneur qui a lutté et remporté la victoire, car elle voit bien qu'elle n'a pas lutté, et que les autres armes qu'elle pouvait utiliser lui paraissaient être entre les mains de l'ennemi. Elle comprend sa misère et sa faiblesse de notre pouvoir si le Seigneur vient à nous le délaisser. Elle n'a plus besoin de réfléchir pour comprendre notre faiblesse et notre néant. Elle en a eu la révélation à travers l'expérience de son impuissance. Malgré l'ouragan où elle se débat, elle ne doit pas être privée de la grâce puisqu'elle n'offense pas Dieu et qu'elle est prête à tout sacrifice pour ne pas l'offenser. Mais la grâce est si cachée qu'il lui semble ne pas avoir la moindre étincelle de l'amour de Dieu, n'en avoir jamais eu. Le bien qu'elle a fait, les faveurs qu'elle a reçues de sa majesté lui semblent une illusion. Elle voit nettement les péchés qu'elle a commis. Ô Jésus, quelle pitié qu'une âme ainsi désemparée. Les consolations terrestres ne lui servent à rien. Mes sœurs, si vous vous trouvez dans cet état, ne vous figurez pas que ceux qui sont riches ou libres peuvent trouver quelque remède. Non, non, voyez les damnés. Trouveraient-ils un remède à leurs maux, s'ils pouvaient goûter au plaisir du monde? Non, ils n'y puiseraient que plus de torture encore. Il en est de même dans le cas présent, car tous les plaisirs de la terre sont impuissants à soulager l'âme qui endure un tourment qui vient d'en haut. Dieu veut que nous reconnaissions sa royauté et notre misère. Que fera cette pauvre âme quand elle restera longtemps dans cet état? Dire une prière? C'est comme si elle ne la disait pas. Comme elle n'a pas de consolation, elle n'en tire aucune et ne comprend même pas la prière qu'elle récite. Ce n'est pas le moment de se livrer à l'oraison mentale, elle en est incapable et la solitude lui est nuisible. La compagnie et la conversation sont un tourment pour elle, elle paraît triste et dégoûtée malgré tous ses efforts. Pourrait-elle vraiment dire ce qu'elle éprouve? Non, ses angoisses et ses peines spirituelles qui n'ont pas de nom ne peuvent s'exprimer. Le meilleur remède pour supporter ce mal, c'est de s'occuper d'œuvres extérieures de charité et d'espérer en la miséricorde de Dieu. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui, qu'il soit béni à jamais. Les peines qui nous viennent du démon sont extérieures et plus rares. Elles sont moins pénibles que celles qui précèdent. Je crois que le démon, malgré ses efforts, ne peut nous lier et nous troubler de la manière que nous avons vue. L'âme garde sa raison pour reconnaître que le démon ne peut pas dépasser les limites qui plaisent à Dieu de lui fixer. Elle comprend que ce qu'elle souffre n'est rien à cause des épreuves dont je viens de parler. Quand je parlerai des diverses sortes de raisons de cette demeure et des grâces que Dieu y attache, je décrirai d'autres peines intérieures. En fait, ce sont de très hautes faveurs de Dieu et non des peines que l'âme n'a pas méritées. Et cela arrive quand elle est sur le point d'entrer dans la septième demeure. Parlons maintenant de la façon dont l'époux se conduit envers l'âme. Voyant comment il se fait désirer, les moyens dont il se sert sont si délicats que l'âme ne les comprend pas. Je ne puis définir exactement ces impulsions si subtiles qui partent du plus profond de l'âme. Souvent, quand l'âme pense à autre chose, Dieu la réveille subitement. C'est comme un éclair ou un coup de tonnerre. L'âme n'entend pourtant aucun bruit, mais comprend que Dieu l'appelle. Elle le comprend si bien qu'au début, elle en est toute tremblante et se plaint, quoique rien ne la fasse souffrir. Elle sent qu'elle a été blessée d'une manière suave, mais ne sait qui l'a blessée. Elle sent que cette blessure est un don précieux et désire ne jamais le guérir. Elle laisse échapper des plaintes d'amour parce qu'elle comprend que son époux est là et qu'il ne veut ni se manifester, ni lui permettre de jouir de sa présence. Sa peine est en même temps très vive et pleine de suavité et de douceur. Voudrait-elle ne pas la ressentir qu'elle ne le pourrait? Son désir serait de ne jamais en être délivrée, qu'elle ressent un bonheur bien plus pur que dans l'ivresse spirituelle de l'oraison de quiétude, où il n'existe aucune souffrance. Lorsque, dans la septième demeure, l'époux parle sans prononcer de paroles distinctes, tous ceux qui sont dans les autres demeures n'osent plus en appeler ni au sens, ni à l'imagination, ni aux puissances. Ô mon Dieu Tout-Puissant, qu'ils sont profonds vos secrets, que les choses spirituelles diffèrent de tout ce que nous voyons ici-bas, puisque je ne trouve aucune comparaison pour expliquer une si petite faveur à côté des merveilles que vous accomplissez dans les âmes. L'effet de cette faveur et telle que l'âme se consume de désir, sans savoir quoi demander car il lui paraît sûr que Dieu est avec elle. Que désire-t-elle? Quelle est la cause de sa peine? Quel bonheur souhaite-t-elle? Je l'ignore. Il lui semble que cette peine la pénètre jusqu'aux entrailles et lorsque la flèche qui l'a touchée est retirée, elle a l'impression de tout entraîner à sa suite, tellement le sentiment d'amour qu'elle ressent est vif. Je me demande si quelque étincelle échappée de ce brasier d'amour qu'est Dieu ne provoquerait pas cet étain en tombant sur l'âme pour lui faire sentir les ardeurs de ce feu. Mais n'étant pas encore assez puissante pour consumer l'âme, elle reste avec sa peine. Tel est l'effet produit par l'étincelle en touchant l'âme. C'est la meilleure comparaison que j'ai pu trouver. Selon qu'il plaît au Seigneur, on la ressent longtemps ou au contraire, elle passe très vite. Car ce n'est pas une faveur que quelques industries humaines peuvent nous offrir. Quoique parfois elle dure longtemps, elle disparaît pour revenir. Elle n'est jamais dans le même état. C'est pour cela que l'âme n'est pas complètement embrasée. L'étincelle s'éteint quand l'âme est sur le point de prendre feu et elle a toujours le désir de sentir cette douleur pleine d'amour causée par l'étincelle. Ne craignons pas que cet état ne vienne de notre propre nature, de la mélancolie, des pièges, du démon ou d'une illusion, car l'âme est animée par des sentiments dont la source est cette demeure où Dieu réside. Les effets produits n'ont aucune ressemblance avec certaines dévotions. L'ivresse des goûts spirituels peut mettre en nous quelques doutes. Le sens et l'épicence se demandent ce qui se passe et ne peuvent rien sur la peine délicieuse où se trouve l'âme. Celui qui aura véritablement reçu cette faveur de notre Seigneur le comprendra. Il n'y a pas d'illusion à redouter. Cependant, on doit toujours craindre de se montrer ingrat pour une si haute faveur. Il faut s'efforcer de servir Dieu et d'améliorer ses œuvres. On verra alors jusqu'où l'on montera et recevra de nouveaux dons. Je connais quelqu'un qui a eu cette grâce pendant plusieurs années. Il était au comble du bonheur. S'il lui avait fallu subir pendant plusieurs années les plus rudes épreuves pour l'amour de Dieu, il se serait estimé largement payé par un tel bienfait. Que le Seigneur en soit béni à jamais. Amen. Peut-être, vous demanderez-vous pourquoi je dis qu'il y a plus de sûreté dans cet état que dans les autres. En voici les raisons. La première, le démon ne peut jamais donner une peine suave comme celle dont j'ai parlé. La deuxième, cette tempête de suavité vient d'un lieu très différent de celui où il exerce son empire. Le troisième, l'âme enrichie des plus précieux trésors est résolue à se séparer des plaisirs et des conversations du monde. Il est très clair que cela ne peut être provoqué par une illusion, car nous ne pouvons contrefaire cette faveur en dépit de nos efforts. L'âme ne peut s'y tromper. Elle ne peut se figurer l'avoir quand elle ne l'a pas, ni douter de sa réalité quand elle la possède. Il ne s'agit pas non plus de ces élans envers Dieu, aussi évidents qu'une voix puissante frappant notre oreille. Aucune apparence également qu'il s'agisse de la mélancolie, car la faveur vient de l'intérieur de l'âme. Je connais une personne qui redoutait beaucoup les illusions dont je parle, mais qui n'a jamais pu avoir de doute sur cette raison. Notre Seigneur a encore beaucoup d'autres moyens pour réveiller l'âme. Parfois, quand elle prie vocalement, sans penser, n'a rien d'intérieur, soudain elle respire un parfum si pénétrant qu'il se répand dans tous ses sens. L'époux est là et excite en elle un suave désir de jouir de sa présence. Elle est alors prête à accomplir de grandes choses pour la gloire du Christ, sans que rien ne puisse l'en empêcher. Dieu a une autre façon encore de réveiller l'âme. Quoi que ce soit d'une faveur plus haute que les précédentes, elle est peut-être plus dangereuse. Il s'agit des paroles que Dieu adresse à l'âme de plusieurs manières. Les unes paraissent venir de l'extérieur, les autres du plus profond de l'âme. Tantôt elles se font entendre à la partie supérieure, tantôt on les entend comme une voix venant du dehors. Parfois, souvent même, il peut y avoir illusion, surtout chez les gens de faible imagination ou en proie à la mélancolie. Il ne faut pas faire cas de ce que disent ces personnes, même si elles affirment qu'elles le voient, entendent, comprennent. Il ne faut pas leur dire non plus que c'est la voix du démon de peur de les troubler. On doit les écouter comme des malades. La prière ou le confesseur à qui elles se confient leur diront de n'attacher aucune importance à cela, puisque ce n'est pas indispensable au service de Dieu et que de nombreuses personnes dans cette voie ont été trompées par le démon. Il ne faudra pas les affliger plus que la rumeur leur fait subir. On n'en finirait jamais avec elles si on leur disait que c'est de la mélancolie. Elles affirmeraient qu'elles voient et entendent ce qu'elles racontent parce qu'elles y croient. Il faut les engager à ne plus faire attention à ces choses et les éloigner de leur raison, le démon ayant coutume de se servir de ces personnes bien portantes ou malades. Au début, il vaut mieux les combattre car si elles viennent de Dieu, cette résistance leur permettra de réaliser de grands progrès. Plus ces faveurs sont mises à l'épreuve, plus elles s'accroissent. Il ne faut pourtant pas trop contraindre les âmes, ni le jeter dans le trouble. Pour revenir aux paroles perçues par l'âme, j'ai dit qu'elles pouvaient venir de Dieu ou du démon, ou de l'imagination. J'espère, avec l'aide de Dieu, j'arriverai à expliquer ce qui les distingue et comment on reconnaît celles qui sont dangereuses. Nombre d'âmes qui se livrent à l'oraison les entendent, mais ne pensez pas qu'il soit mal de les croire ou d'en douter. Lorsqu'elles vous sont personnelles et que leur but est de vous réjouir ou de vous avertir de vos fautes, il importe peu de savoir qui est l'auteur ou si c'est une illusion. Ne croyez pas que vous serez meilleur parce qu'elles viennent de Dieu. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur s'est souvent adressé aux pharisiens et que la perfection consiste à profiter de ses paroles. Quant à la moindre parole qui ne serait pas conforme à la Sainte Écriture, il ne faut pas en faire plus de cas que si elle était dite par le démon lui-même. Si cela vient de la faiblesse de l'imagination, considérons-la comme une tentation contre la foi. Il faut donc lui résister toujours pour s'en débarrasser. Il est d'autant plus facile d'y parvenir qu'elles ont peu de force. Ces paroles peuvent venir de Dieu. Selon moi, les signes les plus certains sont les suivants. Le premier et le plus sûr, c'est l'autorité et l'empire qu'elles apportent avec elles. Elles sont en même temps œuvres et paroles. Voici une âme dans la tribulation, plongée dans la sécheresse et l'obscurcissement d'esprit. Or, il suffit d'une seule parole comme « ne t'afflige point » pour lui rendre le calme. Elle n'a plus de peine, elle est inondée par la lumière divine. Elle n'a plus rien de cette affliction qu'auparavant. Il lui semblait que tous les savants et le monde entier puissent être incapables de faire disparaître cette détresse. Est-elle dans l'affliction parce que son confesseur ou une autre personne lui ont dit que ce qu'elle ressent vient du démon? Ou est-elle remplie de crainte? Une parole comme celle-ci, « C'est moi, ne crains rien », fait disparaître toutes ses craintes et lui donne tant de consolation que nul ne pourrait lui faire croire autre chose. Si certaines affaires importantes la préoccupent et qu'elle se demande quelle en sera l'issue, si elle entend qu'elle doit être tranquille et que tout réussira, immédiatement elle est sûre qu'il en sera ainsi. Elle n'a plus de soucis. Le second signe indiquant quand que ces paroles viennent de Dieu, c'est la paix profonde qui inonde l'âme. Celle-ci est dans un recueillement de dévotion et de paix, prête à chanter les louanges de Dieu. Seigneur, si une parole, une seule parole de vous, transmise par l'un de vos pages, puisque dans cette sixième demeure, ce n'est pas vous, nous qui parlez, mais l'un de vos anges, a un tel pouvoir, quelle jubilation répandez-vous dans l'âme que l'amour attache à vous, comme il vous attache à elle. Le troisième signe qui permet de reconnaître que ces paroles viennent de Dieu, c'est qu'elles restent longtemps dans les mémoires. Certaines même ne s'oublient jamais. Ce n'est pas la même chose pour celles qui viennent de la terre. Je veux dire les plus graves, les plus savantes. Comme elles sont moins profondément gravées dans la mémoire que celles de Dieu, elles ne tardent pas à s'effacer. De plus, on ne leur accorde pas autant de créance. Si elles se rapportent au futur, celles de Dieu donnent une certitude absolue. S'il s'agit de choses qui semblent absolument impossibles et que l'entendement se demande si elles se réaliseront ou non, l'âme a une telle assurance qu'elle ne peut partager ses doutes. Bien que le cours des événements paraisse contraire à la parole entendue, et qu'il se soit écoulé de nombreuses années depuis, l'âme garde toujours la pensée que Dieu l'accompagne, l'accomplira par des moyens que les hommes ignorent et que sa parole se réalisera comme en fait elle se réalise. Sans doute, en voyant tous les obstacles qui s'y opposent, l'âme souffre. Au moment où elle l'a entendu, elle était sûre que cette parole venait de Dieu, mais lorsqu'un long espace de temps s'est écoulé depuis et qu'elle n'est plus sous l'impression du début, Un doute s'élève en elle. Elle se demande si elle n'a pas été le jouet du démon ou la victime de son imagination. Pourtant, quand elle a entendu cette parole, elle n'a eu aucun doute et serait morte pour en affirmer la vérité. Mais quelles imaginations le démon ne présentera-t-il pas à l'âme? Il la découragera et la plonge dans la peine, surtout si c'est une affaire dont la réussite doit contribuer au bien des âmes ou procurer beaucoup d'honneur et de gloire à Dieu. Il parvient à affaiblir sa foi, causant à l'âme un grave préjudice quand il l'a amené à douter que Dieu ait assez de pouvoir pour réaliser des choses dépassant la portée de notre entendement. En dépit de ses combats et de la critique de ceux qui traitent ces choses de folie, les confesseurs à l'âme les confient. Quoiqu'il semble que ces événements ne puissent se réaliser, il reste au cœur une étincelle d'espérance que ces prédictions s'accompliront. L'âme est toujours certaine que Dieu réalisera ses promesses. Enfin, la parole du Seigneur s'accomplit. L'âme en ressent une telle joie et une telle allégresse qu'elle voudrait toujours en louer sa majesté. Ce sentiment vient de ce qu'elle voit Dieu accomplir la parole qu'il avait dite. Seigneur, pourquoi l'âme souhaite que la parole de Dieu se vérifie avec une telle ardeur? À ce sujet, je connais quelqu'un qui pensait souvent au prophète, Jonas, et à sa crainte de Ninive ne fut pas détruite. Enfin, il est juste que l'âme montre cette fidélité à l'Esprit de Dieu qui lui parle et désire qu'on ne le prenne pas pour menteur, alors qu'il est la vérité souveraine. Aussi, quand la prophétie est accomplie, après tant d'obstacles et de difficultés, la joie de l'âme est grande. Quand les paroles qu'on entend viennent de l'imagination, elles ne donnent ni certitude, ni paix, ni joie intérieure. Il arrive cependant qu'une âme soit plongée dans l'oraison de quiétude ou dans un sommeil spirituel et qu'elle soit dans un profond recueillement à cause de la faiblesse de son tempérament ou de son imagination. Elle est alors comme une personne endormie. Elle a une sorte de songe dans lequel elle croit voir certaines choses et entendre qu'on lui parle. Elle se figure que tout cela vient de Dieu. Les effets prouvent bien qu'il ne s'agit que d'un songe. Quelquefois, des personnes demandent avec amour à notre Seigneur quelle faveur et s'imaginent qu'il les exauce. Les personnes ayant une grande expérience des paroles de Dieu ne s'y tromperont pas et ne les confondront pas avec celles que l'imagination crée. Les paroles venant du démon sont plus dangereuses. Si la chose qu'on vous dit est importante et traite de quelque œuvre pour vous ou pour une autre personne, n'agissez pas sans prendre l'avis d'un confesseur éclairé, prudent et vrai serviteur de Dieu. C'est là ce que Dieu veut. On est sûr ainsi de se conformer à ce qu'il commande, puisqu'il prescrit de considérer le confesseur comme son représentant. Ne doutons pas qu'il ne s'adresse à nous par son intermédiaire. Quand la chose sera difficile, ce qu'il nous dira nous encouragera et nous aidera. Lorsqu'il le jugera bon, notre Seigneur lui donnera semblable courage et lui fera voir que son esprit nous anime. Nous ne sommes tenus à rien de plus. Dieu parle aussi à l'âme d'une autre façon, qui a tous les caractères de la certitude, en s'adressant à elle dans une certaine vision intellectuelle. Sa parole est si bien entendue au plus profond de l'âme. Louis l'aperçoit si clairement et d'une manière si secrète que cette vision donne l'assurance que le démon n'y a aucune part. Il en découle d'admirables effets qui font penser que ces paroles viennent de Dieu et non de l'imagination. Les motifs suivants en donnent la certitude. Le premier, c'est la clarté des paroles de Dieu qui les différencie de celles produites par l'imagination. Les paroles divines sont d'une telle clarté qu'il ne manque aucune syllabe, même l'expression avec laquelle elles ont été dites reste à la mémoire. Les paroles venant de l'imagination ne sont pas aussi claires et semblent à demi rêvées. Le deuxième motif, c'est que c'est très souvent, on ne pense pas aux choses qu'on entend. C'est à l'improviste et même au milieu d'une conversation que ces paroles se font entendre. Même l'expression avec laquelle elles ont été dites reste à la mémoire. Les paroles venant de l'imagination ne sont pas aussi claires et semblent à demi-rêver. Le deuxième motif, c'est que très souvent, on ne pense pas aux choses qu'on entend. C'est à l'improviste et même au milieu d'une conversation que ces paroles se font entendre. Elles répondent souvent à une pensée qui est passée rapidement ou que nous avons vue avant, mais elles ont souvent rapport à des choses dont nous ne nous souvenons pas ou avoir pensé qu'elles pourraient exister. C'est pour cela que l'imagination ne peut les avancer ni tromper l'âme en lui présentant ce qu'elle ignore ou n'a jamais voulu. Le troisième, c'est que ce sont des paroles divines. L'âme est comme quelqu'un qui écoute, tandis que si ce sont des paroles de l'imagination, l'âme est comme une personne composant au fur et à mesure ce qu'elle voudrait qu'on lui dise. Le quatrième motif, c'est la grande différence existant entre ces paroles. Notre entendement ne saurait trouver trop les choses qu'embrase une seule parole divine. Le cinquième, c'est que je ne saurais expliquer la vertu de ces paroles divines. Souvent, elles font comprendre un grand nombre de choses autres que celles qu'elles expriment par le son. Cette manière de comprendre et les différences existant entre les paroles venant de Dieu ou non causent de grandes angoisses à certaines personnes. Il peut y en avoir d'autres qui ne parviennent pas à les tranquilliser. Je parle de quelqu'un qui a porté toute son attention à ces choses, notre Seigneur lui accordant souvent cette grâce. Au début, ce qu'il craignait surtout, c'est que l'imagination en fût la cause. Parce que les paroles qu'on entend sont l'œuvre du démon, on s'en rend compte beaucoup plus vite. Toutefois, l'adresse de ces artifices est telle qu'il sait imiter l'esprit de lumière. Mais à mon avis, seulement dans les paroles qu'il dit d'une façon très claire. C'est qu'il n'a pas le pouvoir de contrefaire cette paix et cette lumière qu'apporte avec elle les paroles divines. Il donne plutôt l'inquiétude et le trouble. C'est pourquoi il nuira peu à l'âme et même ne lui causera aucun tort si elle est humble et si malgré tout ce qu'elle entend, elle n'ose agir que d'après les conseils que j'ai donnés précédemment. En supposant que Dieu fasse des faveurs et des caresses, l'âme doit observer avec attention si elle ne croit pas meilleur pour cela. Si elle ne ressent pas une confusion plus vive au fur et à mesure que les paroles deviennent plus tendres, elle doit penser que ces paroles ne viennent pas de Dieu. En effet, quand elles viennent de Dieu, l'âme s'estime d'autant moins elle-même qu'elle se souvient davantage de ses péchés et oublie ses progrès dans le bien. Sa volonté et sa mémoire sont uniquement tendues à la poursuite de la gloire de Dieu sans rechercher son propre intérêt. Elle craint de s'écarter de la volonté de Dieu. Elle est persuadée qu'elle a mérité non ses faveurs, mais l'enfer. Quand toutes les grâces reçues provoquent ces effets, l'âme ne doit pas se laisser aller au trouble, mais placer toute sa confiance en Dieu ne la laissera pas tomber dans les pièges du démon. Cependant, il sera bon de se tenir toujours sur ses gardes. Les âmes que Dieu ne guide pas dans ce chemin croiront peut-être qu'on ne peut pas écouter ses paroles ou qu'on ne peut pas les entendre, si ce sont des paroles extérieures, et qu'on risque ainsi moins de danger. À cela, je réponds que c'est impossible. Pour les paroles venant de l'imagination, cela est différent. Nous pouvons y remédier en modérant nos désirs pour certaines choses et en méprisant ce que l'imagination nous apporte. Il est inutile de s'opposer aux paroles qui viennent de Dieu. Lorsqu'il parle, il fait si bien taire les pensées et capte si bien l'attention qu'il serait plus facile à une personne ayant l'oreille très fine de ne pas entendre une autre parlant très fort. Elle pourrait s'en distraire en s'efforçant de penser à autre chose. Nous ne pouvons employer ce moyen lorsque ce sont des paroles divines. Nous ne pouvons penser à autre chose qu'à ce qu'on dit. Celui qui arrêta le soleil à la prière de Josué peut aussi suspendre notre faculté intérieure. L'âme voit clairement que celui qui commande dans le château est un maître plus puissant qu'elle, et cette vue la remplit d'humilité et de dévotion quand il parle. Il n'y a aucun moyen de ne pas l'entendre. Plaise à Dieu de nous accorder la grâce, de nous efforcer de lui plaire et de vivre dans l'oubli de nous-mêmes. Que fait l'âme au milieu de toutes ces difficultés? Toutes ces peines ont pour but d'aviver son désir de s'unir à l'époux divin. Connaissant la faiblesse de notre amour, Sa Majesté dispose l'âme par ce moyen à avoir le courage de prendre pour époux le Seigneur. Vous croyez que tant de courage n'est pas nécessaire pour cela? Pour les rois de la terre, c'est vrai, mais pour le roi du ciel? Notre nature est trop timide et trop basse pour une telle faveur. Si Dieu ne nous en donnait pas le courage, ce serait impossible. Vous allez voir ce que Dieu fait pour conclure ses fiançailles. Je pense que c'est quand il donne des ravissements à l'âme qu'il la libère de ses sens. Sans cela, elle ne pourrait rester unie à son corps en se voyant si près d'une telle majesté. Je ne parle pas des faiblesses de femmes, comme on en voit de nos jours, et de véritables ravissements. Il y a des natures si faibles qu'une seule raison de quiétude suffit pour les mettre en agonie. Je vais vous parler ici des différents ravissements que je connais. Une sorte de ravissement survient alors que l'âme, sans être en oraison, est saisie par quelques paroles de Dieu qu'elle entend ou se rappelle. Il semble que, l'ayant vu souffrir si longtemps du désir de lui être unie, le Seigneur, touché de compassion, fait surgir de plus profond d'elle-même l'étincelle dont j'ai parlé. L'âme est entièrement embrasée. Le Seigneur se l'unit lorsqu'elle est purifiée sans que nul ne comprenne encore, sauf lui et elle. Et encore, elle ne l'a pas compris au point de pouvoir l'expliquer après, quoiqu'elle ne soit pas privée de ses sens antérieurs, car cela ne ressemble ni à un évanouissement, ni à une syncope où l'âme demeure sans connaissance. Dans cette faveur, ce que je comprends, c'est que l'âme n'a jamais été aussi instruite des choses de Dieu. Si les puissances et les sens sont suspendus au point que nous pouvons dire qu'ils sont comme morts, comment l'âme comprendrait-elle un tel secret? Seul le Très-Haut sait ce qui se passe en un tel état, dans ces deux demeures, car la sixième et la septième pourraient bien être unies entre les deux, il n'y a pas de porte fermée. Vous demanderez peut-être quel profit l'âme en retire si elle ne se souvient plus des faveurs insignes que le Seigneur lui accorde. Ces faveurs, qu'on ne peut expliquer, restent gravées au plus profond de l'âme. On ne les oublie jamais. Mais si aucune image ne les représente, comment s'en souvenir? Je comprends que l'âme en garde des idées sur la grandeur de Dieu, tellement gravées que, le reconnaissant pour son Dieu, elle l'adore comme tel. C'est ce que fit Jacob quand il vit l'échelle mystérieuse. S'il n'avait vu qu'une échelle, le long de laquelle des anges montaient et descendaient sans posséder une plus grande lumière intérieure, il n'aurait pas compris les hauts mystères que cette vision enfermait. Moïse, de son côté, ne put raconter tout ce qu'il avait vu dans le buisson, mais seulement ce que Dieu lui ordonna de révéler. Or, si Dieu ne lui avait pas fait voir des choses secrètes pour lui prouver que ce qu'il lui parlait était bien son Dieu, il ne se fût jamais exposé à de telles épreuves. La vue de ce buisson ardent, de lui faire découvrir des vérités si profondes qu'elles lui donnèrent le courage d'entreprendre ce qu'il a accompli pour le peuple d'Israël. Mes sœurs, nous ne devons pas chercher de raison pour comprendre les secrets de Dieu. Dès lors que nous avons fait foi dans toute sa puissance, nous devons croire qu'un ver de terre, aussi faible que nous, est incapable de comprendre ses grandeurs. S'il daigne nous en donner quelques-unes, rendons-lui les actions de grâce les plus vives. Vous entrez dans le salon d'un roi ou d'un grand seigneur. En entrant, vous voyez des cristaux, des objets rares et précieux qui se trouvent là. Un jour, je fus conduit dans un salon semblable, au palais de la duchesse d'Albe. En pénétrant dans cette salle, je fus stupéfaite et me demandai à quoi tous ces objets vont se servir. Je restai là quelque temps. Il y avait tellement de choses à voir qu'en sortant de ce salon, j'oubliais tout. Comme si je n'avais vu tous ces objets. Il en est ainsi dans le ravissement. L'union de l'âme à Dieu est telle qu'elle ne fait qu'une seule chose avec lui. Si Dieu est dans l'âme, il doit occuper quelques-unes de ses demeures. Quoi qu'elle soit dans l'extase, il ne veut pas que l'âme voie les secrets de ses demeures. La joie de posséder Dieu cause un tel bonheur qu'il lui suffit. Il lui plaît parfois de dissiper son ivresse et de lui faire voir ce qu'il y a dans cette demeure. Revenue à elle, elle se souvient de ce qu'elle a vu, mais sans pouvoir l'exprimer. Sa nature ne saurait voir au-delà de ce que Dieu lui a montré surnaturellement. Si dans les ravissements, une âme n'a pas compris certains secrets de Dieu, je suis persuadée que ce ne sont pas de véritables ravissements, mais quelques faiblesses naturelles, qui n'a rien de commun avec les ravissements. Dans le ravissement, Dieu attire à lui l'âme tout entière. Dieu, la considérant alors comme sa propriété et son épouse, lui découvre petit à petit quelques parties du royaume. Ce royaume, c'est lui. Il ne permet que personne, ni l'essence ni les puissances, la troublent. Aussitôt, il a fait fermer les portes de toutes les demeures, sauf de celle où il réside, qui est ouverte pour nous. Vous y donnez entrée. Mes sœurs, tout ce que nous quittons, tout ce que nous faisons, pourrions faire, n'est rien pour Dieu, qui se donne à des vers de terre comme nous. Que faisons-nous si nous avons l'esprit de jouir de cette faveur, de cette vie? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'appeler ce Seigneur comme l'épouse des cantiques, parcourant des rues et des places publiques, même si nous possédions tous les plaisirs, toutes les richesses et les joies que donnent tous les biens de ce monde? Quelle folie de nous y arrêter, s'il ne nous aide pas à atteindre ce but. Que tout cela est vil et abject en comparaison des trésors dont on jouira éternellement. Que sont ces trésors si on les compare au bonheur de posséder le maître de tous les trésors du ciel et de la terre comme notre propriété? Ô aveuglement humain, quand ôterons-nous ce limon qui est sur nos yeux? Et si ce limon ne nous aveugle pas complètement, je découvre pourtant des grains de poussière et de sable qui pourraient nous causer un grave préjudice si nous en laissions le nombre s'augmenter. C'est pour cela que nous voyons si imparfaites, nous devons avec plus de ferveur implorer le Maître de tirer du bien de notre misère. Je dis que quand l'époux veut élever l'âme au ravissement, il fait fermer les portes des demeures et même celles du château. On perd la respiration et si quelquefois on garde quelque temps dans l'usage des sens, il est absolument impossible de parler. L'usage des sens cesse aussitôt, les mains et le corps se refroidissent tels que l'âme, séparée du corps. Parfois on ne peut voir s'il respire. Ce grand ravissement dure peu. Quand il vient à se ralentir, le corps semble un peu revenir à lui et reprendre haleine, pour mourir encore et donner plus de vie à l'âme. Cette grande extase ne dure jamais longtemps. Cependant, quoi qu'elle soit passée, l'ivresse de la volonté reste telle que l'entendement, si absorbé pendant un ou plusieurs jours, semble incapable de rien comprendre, hors de ce qui peut inciter la volonté à aimer, car elle est toute disposée à l'amour, mais reste endormie à l'égard des créatures et n'ose plus s'attacher à elles. Une fois revenue à la vie, quelle confusion éprouve l'âme d'avoir reçu une telle faveur? Quel désir elle ressent de s'employer au service de Dieu? Elle voudrait avoir mille vies à employer au servir Dieu, et que toutes les créatures deviennent autant de langues qui le louent en son nom. Elle éprouve de très vifs désirs de faire pénitence. Elle est animée d'un tel amour qu'elle sent à peine toutes les austérités auxquelles elle se livre. Elle comprend que les martyrs enduraient facilement leur supplice, tellement ils recevaient de notre Seigneur d'abondants secours. Ces âmes ont la plus haute estime de cette faveur quand elles la reçoivent en secret, mais elles sont mortifiées quand elles la reçoivent en présence de quelques personnes, au point qu'elles en perdent l'ivresse de la joie où elles se trouvaient. Elles sont inquiètes en pensant à ce qu'en diront ceux qui y ont assisté. Elles connaissent la malice du monde et savent que cette faveur ne sera peut-être pas reconnue pour ce qu'elle est et qu'on en tirera des jugements téméraires au lieu d'en louer le Seigneur. Indépendante de la volonté, cette peine et cette confusion paraissent venir d'un manque d'humilité. Pourquoi l'âme s'inquiète-t-elle du mépris si elle le désire? À une personne se trouvant dans cette affliction, notre Seigneur dit « N'aie pas de peine, ou bien on me louera, ou bien on murmurera contre toi dans l'un ou l'autre cas, tu y gagneras. » Il me semble que le Seigneur veut faire comprendre à tous que cette âme est désormais à lui et que nul ne peut y toucher. Qu'on attaque son corps, ses biens, sa réputation, soit, mais il ne permettra pas qu'on touche à cette âme si elle ne commet pas la faute énorme de quitter son époux. Il la protégera contre tous ces assauts du monde et même contre ceux de l'enfer. J'appellerai vol d'esprit une autre sorte de ravissement. Quoique semblable au précédent, la façon dont on l'éprouve intérieurement est très différente. On sent parfois un mouvement de l'âme si vif que l'esprit semble transporter avec une rapidité qui inspire une vive terreur. Il faut que l'âme que Dieu veut enrichir de ses faveurs ait un grand courage et une grande fermeté dans la foi, la confiance et l'abandon à la volonté de Dieu, pour qu'il fasse d'elle ce qui lui plaira. Pensez-vous que pour une personne en possession de ses sens, ce soit un petit trouble de voir son âme emportée, et même, chez certains, son corps, en ignorant où elle va, qui l'emporte et comment on l'emporte. Elle n'est pas sûre, au début de ce brusque mouvement, que l'auteur en soit Dieu. N'a-t-elle aucun moyen d'y résister? Non. Ce serait pire encore. Je le sais de quelqu'un qui en a l'expérience. Il semble que Dieu veuille faire comprendre à l'âme que, désormais, elle ne peut plus disposer d'elle-même après s'être si généreusement offerte à lui. Si elle lui résiste, il l'emporte encore, avec plus de violence. C'est pourquoi cette personne avait pris parti de ne plus résister au ravissement que la paille à l'ambre qui l'attire. Elle se laissait emporter par celui qui est tout-puissant. Puisque je viens de parler de la paille, et que pour un géant, il est très facile d'enlever une paille, il est tout autant notre géant infini d'enlever l'esprit. Mes sœurs, si en voyant comment ce grand roi montre sa puissance absolue, je suis plongée dans l'admiration, que sera-ce pour l'âme qui en fait l'expérience? Je suis persuadée que ceux qui vivent dans les dérèglements du monde n'oseraient plus offenser le Seigneur s'il se manifestait ainsi à eux. La crainte, sinon l'amour, les arrêterait. Quelle obligation pour les âmes qu'un tel maître conduit par une voix si sublime de tendre leurs efforts à ne plus l'offenser. Si Dieu vous accorde de telles faveurs, mes sœurs, par amour pour lui, ne vous contentez pas de les recevoir. Plus vous lui êtes redevable, plus vous devez le payer en retour. Cette obligation, donnant de très vives craintes, il faut beaucoup de courage. Si notre Seigneur ne vous le donnait pas, l'âme serait dans une grande affliction en voyant tout ce que Dieu a fait pour elle, et lorsqu'elle examine sa propre vie, de constater combien elle répond peu aux avances de notre Dieu. De plus, comme ce peu est plein de fautes, de faiblesses et de misères, elle préfère ne plus voir l'imperfection de ses bonnes œuvres et les laisser dans l'oubli pour s'abandonner à la miséricorde de Dieu. Il lui fera peut-être une réponse pareille à celle qu'il adressa à une personne profondément affligée par cette vie. Elle se tenait aux pieds de son crucifix, se disant qu'elle n'avait rien à offrir à Dieu. Le Seigneur lui dit pour la consoler, qu'il lui donnait toutes les douleurs et les travaux qu'il avait endurés dans sa passion, qu'elle devait les regarder comme son bien propre et les offrir à son Père. Son âme fut si consolée et si enrichie qu'elle ne put l'oublier. Toutes les fois qu'elle voit la grandeur de sa misère, elle se souvient de cette parole du Christ, et de nouveau, elle est pleine de courage et de consolation. Ce que je viens de dire me paraît utile pour vous faire comprendre combien il plaît à notre Seigneur que nous reconnaissions ce que nous sommes. Il lui est agréable que nous approfondissions notre indigence et notre faiblesse, et que nous nous persuadions que tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu. Revenons au vol rapide de l'esprit. Il s'opère d'une telle façon que l'esprit semble quitter le corps. La personne dont je parle n'en est pas morte, mais ne peut dire si pendant quelques instants l'esprit animait ou non son corps. Elle avait l'impression que tout son être était dans une région très différente de celle où nous vivons et qu'on lui faisait voir une lumière tellement supérieure à celle d'ici-bas qu'elle ne pouvait l'imaginer. Malgré ses efforts de toute une existence, elle reçut en un instant de telles connaissances que, même après beaucoup d'années, elle n'aurait pu en fabriquer la millième partie. Avec les yeux de l'âme, on voit bien mieux que sur la terre avec les yeux du corps. Cela peut même arriver sans qu'on n'entende aucune parole. D'autres fois, en plus de ce que voient les yeux de l'âme, une vision intellectuelle en fait d'autres. On voit notamment le maître en compagnie d'une foule d'anges. Celui qui en a l'expérience, s'il est savant, en tirera un grand secours. Sans se déplacer, le soleil nous envoie ses rayons avec tant de puissance que nous le recevons à un instant. L'âme ne pourrait-elle pas s'élever au-dessus d'elle-même, sans changer de place? Il se produit à l'intérieur de l'âme un mouvement aussi rapide qu'une décharge d'arquebuse. L'âme, hors d'elle-même, découvre des secrets si admirables que tous les trésors de la terre lui paraissent de la boue à côté des merveilles qu'elle a vues. Sa vie terrestre se passe désormais dans une peine extrême, car il n'y a plus rien qui puisse la contenter. Il vous semblera pas qu'on puisse tirer grand profit d'une faveur si brève, et pourtant, Elle enrichit l'âme de biens si précieux qu'on ne peut en apprécier la valeur. Ces choses, qui nous donnent tant de paix et nous procurent la connaissance de la grandeur de Dieu, nous donnent l'humilité et le mépris des biens terrestres. Voilà les joyaux que l'époux commence à donner à son épouse. Ces choses se gravent si bien dans son esprit qu'elle ne les oubliera jamais. L'âme ressent un si grand désir de jouir de celui qui lui accorde de telles faveurs qu'elle vit dans un tourment agréable. Elle appelle la mort et supplie avec des larmes le Seigneur de la tirer de cet exil. Ici-bas, toute la fatigue, l'âme se consumant d'un si tendre amour s'envole à la moindre occasion qui active le feu. C'est pourquoi, dans cette sixième demeure, les ravissements sont si fréquents et ne peuvent être empêchés. Sans doute, l'âme jouit d'une profonde sécurité intérieure, surtout lorsqu'elle est seule avec Dieu. D'autre part, elle craint que le démon ne la trompe et d'offenser ainsi celui qu'elle aime tant. Dieu donne à l'âme un désir si grand de ne lui déplaire en rien qu'elle veut fuir la compagnie du monde et vivre dans le désert. Mes sœurs, il ne faut pas favoriser les désirs véhéments de voir notre Seigneur que vous pouvez ressentir. Quand ils sont très violents, l'âme peut y faire diversion. Mais il faut marcher avec prudence, par crainte du démon. Chez les personnes sensibles, cela provoque des pleurs qui n'en finissent pas. Le démon pense ainsi les affaiblir. Si ces larmes viennent de Dieu, elles donnent paix et force. Mettons-nous à la pratique des vertus plutôt que de pleurer. Ne faisons rien pour attirer ces larmes. Dieu sait ce qui nous convient. Nous suivrons alors le chemin dans la paix. Parfois, lorsque l'âme ressent ses peines et ses faveurs en même temps, notre Seigneur donne des sentiments de jubilation et une raison extraordinaire. L'âme éprouve une joie telle qu'elle voudrait en parler à tout le monde afin d'être aidée à louer le Seigneur, car elle ne doute pas que pour le moment, elle est en sûreté. Cette joie ne peut venir du démon. C'est ce que devait éprouver saint François. Quand allant dans sa campagne pour jeter des grands cris, il dit à des voleurs qu'il rencontra qu'il était le héros du grand roi. C'est ce que durent éprouver d'autres saints qui allaient dans le désert chanter bien haut les louanges de Dieu. J'ai connu le père Pierre d'Alcantara qui faisait la même chose. Ceux qui parfois l'entendaient le prenaient pour un fou. Si vous avez cette bonne folie, vous pouvez la manifester sans craindre le blâme dans cet asile de Saint-Joseph. Il en serait autrement dans le monde. C'est pourquoi mes sœurs qui vivaient séparées du monde, qui possédaient la joie d'habiter ce monastère, stimulez-vous souvent à célébrer les louanges de Dieu. Plaise à Dieu de vous accorder souvent cette oraison si sûre, si profitable. C'est une des faveurs les plus spirituelles. Elle dure parfois toute une journée. Ô mes filles, que toutes les créatures nous aident à louer Dieu dans tous les siècles des siècles. Mes sœurs, vous qui pensez que les âmes auxquelles Dieu se communique ainsi sont sûres de jouir de lui pour toujours et n'ont aucun motif de craindre ou de pleurer leurs péchés, au contraire, la douleur des péchés commis augmente quand l'âme reçoit davantage de Dieu. Ces douleurs ne cesseront que lorsque nous serons arrivés, là où plus rien ne pourra nous donner de peine. Je conviens qu'on les sent plus ou moins et sous des formes différentes. Ce n'est pas le châtiment que ses fautes ont mérité, mais la noire ingratitude envers celui qui mérite tant d'être glorifié. Son peu de respect pour lui l'irrite, ainsi que l'étrange folie d'avoir préféré de vils objets à une si haute majesté. Les personnes arrivées à cet état n'ont pas la crainte de l'enfer. Ce qu'elles redoutent, c'est que Dieu ne les abandonne. Leur peine ou leur gloire dans notre vie ne les inquiète nullement. La pensée que notre Seigneur a déjà pardonné et oublié nos fautes n'adoucit pas cette peine. Au contraire, la vue d'une si grande bonté pour une âme qui a mérité l'enfer augmente cette peine. Cette pensée dut être un cruel martyr pour Saint-Pierre et Sainte-Magdalène. Aussi leur douleur fut-elle accompagnée de la plus profonde tendresse. Vous figurez que l'âme, jouissant de si hautes faveurs, ne peut plus méditer les mystères de la très sainte humanité de notre Seigneur, parce qu'elle ne s'applique qu'à aimer. Quelques âmes se figureront qu'elles ne peuvent penser à la passion de notre Seigneur, mais elles seront encore moins capables de penser à la Sainte Vierge et à tous les saints. Alors, à quoi passeront-elles? C'est le propre des esprits angéliques, séparés des chances temporelles, d'être toujours embrasés d'amour. pour nous qui avons un corps mortel. Nous avons besoin de penser avec les saints. Nous devons vivre dans la compagnie de ceux qui, ayant un corps comme nous, ont été si grands serviteurs de Dieu. À plus forte raison, nous ne devons pas nous éloigner de la très sainte humanité de notre Seigneur, pour nous plénitude des biens et remède à tous les maux. Je puis assurer aux personnes qui ne le font pas qu'elles n'auront jamais accès aux deux dernières demeures. Car en perdant le guide, le bon Jésus, elles en perdront le chemin. Le même Seigneur a dit qu'il était la voie, et aussi la lumière. Il a encore dit que personne ne peut aller à son Père si ce n'est par lui. Et qui me voit, voit aussi le Père. L'âne ne désire que s'occuper à aimer. Elle a beau le vouloir, elle n'y réussit pas toujours. Est-il bon à l'âme de demeurer dans cet état, en attendant, comme notre Père Élie, que le feu descende du ciel? Non, il n'est pas convenable d'espérer un miracle. Dieu veut que nous nous regardions comme trop misérables pour le mériter. J'estime que cela doit être à notre disposition jusqu'à la mort. Quelle que soit la perfection de notre raison, telle est la volonté de Dieu. Méditons sur la vie et la mort du Christ et sur nos obligations envers lui. Pour moi, méditer, c'est songer à la faveur que Dieu nous a faite en nous donnant son Fils unique. Puis passer par tous les mystères de sa glorieuse vie ou commencer à méditer sur la prière que fit notre Seigneur au jardin des Oliviers et le suivre jusqu'à ce qu'il soit cloué sur la croix. Ou prendre une scène de la Passion comme l'arrestation de Jésus en considérant tous les détails qui peuvent nous frapper. La trahison de Judas, la fuite des apôtres, c'est une raison admirable. Il est impossible qu'après avoir reçu de Dieu tant de faveurs, l'âme oublie de si précieuses marques d'amour. Voir le Sauveur prosterné au jardin des Oliviers suffit pour méditer pendant une ou plusieurs heures. Il nous est très nécessaire de regarder comment le Christ a enduré ses épreuves. Notre Jésus est une trop bonne compagnie pour que nous nous en séparions. Pour moi, l'état d'une âme toujours dans les délices et qui ne pourrait méditer sur la sainte humanité et la Passion du Christ me paraîtrait suspect. Je me suis trouvée dans cette illusion. Mon âme ne faisant pas de progrès, je vis quelle était mon erreur. C'est pourquoi, même si je le pouvais, je ne voudrais acquérir aucun bien qui ne me vint de l'auteur de tout bien. Il arrive qu'une âme, ne songeant nullement à pareille faveur et ne croyant pas l'avoir méritée, sente près d'elle Jésus-Christ sans le voir, pourtant, ni des yeux du cœur, ni de ceux de l'âme. Cela s'appelle une vision intellectuelle. J'ignore pourquoi. J'ai vu une personne qui avait reçu cette faveur de Dieu. Au début, elle était très inquiète, car ne voyant rien, elle ne comprenait pas ce que c'était. Pourtant, elle était tellement sûre que c'était le Christ qui se montrait ainsi qu'elle ne pouvait pas en douter. Il découlait des effets si admirables de cette vision qu'elle comprenait que Dieu en était l'auteur. Mais n'ayant jamais entendu parler de vision intellectuelle, elle était toujours dans la crainte. Elle avait déjà entendu ces paroles. Cependant, on cherchait à lui inspirer les plus vives inquiétudes. Son confesseur, le tout premier. Mais le Seigneur lui ayant dit « Ne crains pas, c'est moi », elle ne pouvait avoir de doute. Elle se sentait pleine de courage et de joie d'être en si bonne compagnie. Elle sentait que notre Seigneur se tenait à sa droite. Sa certitude lui semblait plus grande que celle de ses sens. Cette personne, ayant compris que le démon n'en était pas l'auteur, se demandait avec inquiétude d'où pouvait lui venir cette faveur. Cette grâce de Dieu fit naître en elle une grande confusion, une grande humilité, un amour très tendre pour le Seigneur et un désir très vif de se vouer uniquement à son service. Comment comprendre que c'est le Christ ou sa très sainte mère ou un saint qui est là? L'âme pourra seulement répondre qu'elle le sait, de façon certaine. L'âme doit en rendre gloire à Dieu et lui adresser ses actions de grâce plus ferventes. Mes sœurs, tenez-vous davantage sur vos gardes, ne vous négligez pas après avoir reçu ces grâces. Au début, il est utile de consulter un homme très savant. Ne vous troublez pas s'il vous dit que vous êtes dans l'illusion. Son opinion ne peut faire ni un grand mal ni un grand bien à votre âme. Recommandez-vous à la Divine Majesté afin qu'elle ne permette pas que vous soyez trompé. » Ayant traité de ses problèmes intérieurs avec ses personnes savantes, que la sœur ne consulte plus personne. Il faut donc agir avec une grande prudence. C'est ce que je recommande particulièrement aux prieurs. Mais il ne faut pas croire qu'une sœur est plus parfaite que les autres parce qu'elle reçoit de telles faveurs. Ce n'est qu'une aide pour que l'âme devienne plus grande servante de Dieu. La plus mortifiée et la plus humble sera la plus sainte. Voyons comment notre Seigneur est avec nous. Imaginons que nous avons une pierre précieuse, inestimable, dans un coffret d'or. Nous n'osons pas ouvrir la cassette pour la regarder. Seul le propriétaire en a la clé et n'ouvrira le coffret que quand il lui plaira. C'est ce qu'il fait quelquefois par faveur. La personne qui verra l'éclat de cette pierre ressentira une grande joie et aimera à s'en souvenir. Il en est de même quand le Christ daigne faire apparaître sa très sainte humanité à une personne. Cette image ne s'efface jamais de l'esprit, car elle est vivante et parle à l'âme. On ne peut pas plus la fixer que le soleil, elle passe toujours très vite. La splendeur de notre Seigneur ressemble à celle d'un soleil recouvert d'un voile aussi transparent qu'un diamant. Chaque fois qu'il accorde cette faveur à une âme, elle tombe en extase, car elle est saisie d'une grande terreur. Ô Seigneur, comme nous savons peu vous connaître, que sera-ce quand vous viendrez nous juger? Quand il dira d'une voix courroucée, « Allez les maudits de mon Père !» Saint Jérôme avait toujours cette pensée. Imitons-le, et les austérités de la règle nous sembleront légères. Personnellement, la crainte de l'enfer m'a toujours paru un rien, à côté de ce que les damnés verront un jour. Les yeux pleins de courroux, ses yeux si beaux, si doux, si compatissants de notre Seigneur. Si l'âme, voyant ce divin Seigneur, peut longtemps le fixer, je ne pense pas que ce soit une vision surnaturelle, mais quelques figures faites par l'imagination. Dans la vision véritable, l'image de notre Seigneur se montre soudain, remplissant l'âme de troubles et de craintes, puis lui donnant une paix délicieuse. Pendant quelque temps, elle garde une certitude telle qu'on ne saurait lui assurer le contraire, et puis elle est certaine que le démon ne saurait produire de tels bienfaits. D'ailleurs, si c'est le démon qui agit, il se trahira par d'innombrables mensonges. Le plus important, mes sœurs, c'est de vous en ouvrir à votre confesseur en toute sincérité. Parce que vous apprendrez que Dieu donne de si hautes grâces à certaines âmes, ne demandez jamais à être guidé dans cette voie pour six raisons. D'abord, c'est manquer d'humilité que de vouloir ce qu'on ne mérite pas. Ensuite, l'âme court le grand risque d'être trompée, car le démon est là. Troisièmement, une fois que l'imagination est influencée par un désir ardent, on s'imagine voir et entendre ce qu'on veut. Quatrièmement, c'est une grande audace que de vouloir choisir notre voie nous-mêmes, sans savoir ce qui nous convient. Cinquièmement, pensez-vous que les âmes, objets de ces faveurs, portent des croix légères? Pourrez-vous les porter? Sixièmement, on ignore si on ne perdra pas là où l'on croyait gagner. Mes sœurs, le plus sûr est de vouloir ce que Dieu veut, que sa volonté s'accomplisse en nous. De nombreuses personnes sont saintes et n'ont jamais connu ces visions. Que le Seigneur soit béni à jamais. Le Seigneur se communique aux âmes par d'autres voies encore, qui sont bien plus élevées et moins dangereuses que celles dont j'ai parlé. Ce sont des faveurs très cachées. Quand l'âme, en pleine possession de ses sens, est en oraison, soudain le Seigneur la fait entrer en extase et lui découvre de grands secrets. Ce n'est pas une vision de la très sainte humanité. C'est une faveur d'une grande utilité, elle laisse une très forte empreinte, et l'âme reste toute confuse. Cette grâce ne dure qu'un instant. Pour la faire comprendre, pensons en ce moment que Dieu est dans un immense et magnifique palais, où le pécheur commet ses méfaits. Mes sœurs, nous devons considérer la grandeur, la miséricorde et la patience de Dieu qui ne confond pas le pécheur sur place et souffre tant d'injures. Ne croyez pas, mes sœurs, que vous ferez beaucoup en supportant les injures. Acceptons-les de bon cœur, aimons ceux qui nous les font. Dieu ne nous aime-t-il pas, malgré nos nombreuses fautes? Parfois aussi, Dieu montre que seul, il est vérité et ne peut mentir. Comme la question que lui posa Pilate était importante. Qu'est-ce que la vérité? Mes sœurs, nous devons en conclure qu'il faut toujours marcher selon cette vérité. Non seulement nous devons éviter le mensonge, grâce à Dieu, nous prenons un soin particulier de ne pas en commettre, pour quoi que ce soit, mais il faut que nous marchions selon la vérité devant Dieu et devant les hommes. Il ne faut pas souhaiter qu'on nous croie meilleurs que nous ne sommes. Un jour, je me demandais pourquoi notre Seigneur aimait tant d'humilité. Je pensais soudain que c'est parce que Dieu est la vérité suprême et que l'humilité consiste à marcher selon la vérité. Nous n'avons pas à fixer de limites à Dieu. Il peut élever une âme aux plus hautes faveurs. Il est tout puissant et peut tout ce qu'il veut. Il peut arriver que ses larmes, ses soupirs, ses angoisses de l'âme, accompagnées d'une grande souffrance, paraissent venir de notre amour. Mais à côté du tourment dont je vais parler, cela n'est rien. L'âme étant dans cet état, le feu de son amour s'accroissant davantage, souvent il survient à un coup de flèche. Cela ne vient pas de nous-mêmes. Cette blessure est faite au plus profond de l'âme. Tant que cette torture dure, l'âme ne peut avoir le moindre souvenir de son être. C'est un ravissement des sens et des puissances, à l'égard de tout ce qui ne contribuait pas à faire ressentir cette douleur. L'entendement comprend alors pour quelle raison l'âme souffre d'être loin de Dieu. Son tourment augmente au point de lui faire pousser des cris. Cette personne a compris que les angoisses de l'âme surpassaient les douleurs physiques. Elle comprend aussi que c'est le même genre de souffrance qu'on endure au purgatoire. Personnellement, j'ai vu une personne dans cet état. Je croyais qu'elle allait mourir. Cet état dure peu, mais laisse le corps brisé pendant 2 ou 3 jours sans force. On ne sent plus les autres douleurs, ainsi que j'en ai fait l'expérience. Brûlée par la soif de voir Dieu, elle ne peut parvenir à l'eau qui l'a désaltérée. C'est une soif telle que l'eau dont le Seigneur a parlé à la Samaritaine peut seule l'éteindre. Et on ne lui donne pas de cette eau. Ô Seigneur, quel tourment vous faites éprouver à vos amis. Mais que sont ces tourments à côté des faveurs que vous leur accordez après? Car il faut se purifier avant d'entrer dans la 7e demeure. La souffrance ressentie par l'âme est bien peu auprès des grâces dont l'âme est enrichie. C'est comparé à une goutte d'eau à l'océan. Il est arrivé à cette personne d'endurer pendant seulement 1 quart d'heure sa souffrance. Elle resta toute brisée. Le dernier jour de Pâques s'était passé pour elle dans une sécheresse, telle qu'elle ne comprenait pas quelle grande fête c'était. Quand elle tomba en extase, cette souffrance ne peut pas se dissimuler. Il y a même un danger de perdre la vie. Les personnes l'entourant lui semblaient des ombres. Ses souffrances sont vives, mais l'âme en retire les avantages les plus précieux. Elle ne craint plus les croix qu'elle peut avoir. 2 choses exposent au danger de mourir. La souffrance et la consolation extraordinaire éprouvée par l'âme.
The